Chapitre 34. Comme elle approchait de l'endroit où demeurait Jane Wilson, Jem lui apparut tout à coup. Elle tressaillit de surprise. « Tu vas chez ma mère ? » demanda-t-il, et prenant le bras de Mary, il revint sur ses pas.
« Oui, et j'y allais pour te voir. Oh, Jem, est-ce vrai, dis-moi ? »
« À quoi bon te le cacher ? » répondit-il après quelques instants d'hésitation. « Je suppose que c'est ça que tu veux dire. » Je ne travaille plus chez les Duncombe. Si je ne t'en ai pas parlé, c'est que j'avais peur de t'inquiéter. Mais sois tranquille, j'aurai bientôt de l'ouvrage.
Comment se fait-il qu'on ait pu te renvoyer, puisque le jury t'a déclaré innocent?
On ne m'a pas renvoyé. Seulement, il s'est trouvé des ouvriers qui ont fait savoir qu'ils ne travailleraient pas volontiers sous mes ordres. Il en est d'autres qui me connaissent et à qui ça ne fait rien, mais la plupart doutent de moi, et l'un d'eux en a touché à Mr. Duncombe jeune.
« Fi donc !»
s'écria Mary, tristement indignée. « Ma chérie, on ne peut pas les blâmer. De pauvres gens comme eux n'ont au monde que leur réputation dont ils puissent être fiers, et ils ont raison d'en prendre soin et d'éviter le moindre contact qui pourrait les salir.
Mais ils devraient te connaître et savoir qu'avec toi ils ne peuvent rien craindre. »
« Ainsi, pensent quelques-uns. L'inspecteur, j'en suis sûr, croit à mon innocence. Et pourtant, il m'a dit qu'il en avait parlé avec Mr. Duncombe, le père, et qu'ils étaient d'avis que je devais m'en aller au moins pour quelque temps. Ils me recommanderont. J'aurai de l'ouvrage ailleurs. »
« C'est égal, » dit la jeune fille en secouant la tête. « Ils auraient dû savoir mieux t'apprécier. »
Jem serra la petite main qu'il tenait dans les siennes. « Mary, es-tu bien attachée à Manchester? Ça te ferait-il beaucoup de peine de quitter sa fumée ?»«
Avec toi ?»
N'aie pas peur que je te renvoie pendant que j'y resterai. C'est que j'ai entendu dire de si belles choses du Canada. Notre inspecteur a là-bas un cousin qui est aussi dans la fonderie. Sais-tu où c'est le Canada?
Pas précisément. Mais avec toi, Jem, qu'en est-il besoin de le savoir? Et mon père?
S'écria Mary, dont l'extase se brisait au souvenir de la réalité.
Je ne t'ai pas dit, Jem, qu'il te prie de venir lui parler ce soir, à 8 heures. Que peut-il te vouloir?
« Je ne sais pas, mais j'irai. Ne perdons pas notre temps à deviner ce qu'il veut me dire. Entre un instant pour voir ma mère, et puis je te ramènerai. Tu n'es pas assez forte pour t'en aller toute seule. » Les 12 paroles continuèrent, qui, pour vous, n'auraient aucune valeur, et dont tous mes efforts ne vous traduiraient pas le sens profond et divin. 7h30 sonnèrent. « Entrons vite, Mary. Ma mère sait que tu dois être sa fille. » Mistress Wilson maugréait contre Jem. Elle le croyait toujours employé à la fonderie, et depuis longtemps, il aurait dû rentrer. Le gâteau de pommes de terre qu'elle avait fait pour lui durcissait d'une manière désolante. Elle aimait tant à lui faire une surprise. Elle ne pouvait s'empêcher de lui en vouloir quand il lui ôtait le plaisir qu'elle s'en était promis. La porte s'ouvrit enfin. Jem entra la figure rayonnante, et Mary à son bras, les yeux baissés et le sourire sur les lèvres, le bonheur entourait le jeune couple d'une atmosphère radieuse. Jeanne pouvait-elle se rappeler en les voyant les vulgaires soucis de Marthe? Émue jusqu'au fond de l'âme, elle ouvrit les bras et serrant Mary contre son cœur.
« Qu'il soit heureux et que Dieu te bénisse à jamais !» lui dit-elle au milieu de ses caresses et de ses larmes.
Les dernières lueurs du crépuscule allaient s'éteindre, et c'est à peine si, en entrant dans la chambre de Burton, Jem put distinguer dans l'ombre 2 ou 3 personnes qui s'y trouvaient réunies. Le père de Mary, debout à côté de sa chaise à laquelle il s'appuyait, afin de ne pas tomber, avait en face de lui Mr. Carson, dont le profil sévère se détachait sur le fond rouge du brasier. Derrière Burton, Job Gley, assis, les coudes appuyés sur la table, cachait sa figure dans ses mains. Les deux jeunes gens s'arrêtèrent près de la porte, n'osant ni faire un pas, ni à peine respirer.
« Si je vous ai bien compris, » disait Mr. Carson d'une voix tremblante, « c'est vous qui avez assassiné mon fils. Ne croyez pas que cet aveu que vous m'avez fait de votre crime puisse me fléchir. Au moins, vous subirez au contraire tout ce que la loi peut avoir de rigueur. Je veux, pour vous, toutes les tortures qu'elle saura vous infliger. N'attendez pas de pitié de moi, vous qui avez été sans merci pour mon fils. »
« Je n'en demande à personne, » répondit Burton à voix basse. « Que vous en demandiez ou non, je vous ferai pendre. Entendez-vous, assassin? je vous ferai pendre. »
Burton laissa tomber un gémissement, non pas qu'il eût peur, mais il trouvait affreux d'avoir inspiré tant de haine.
« Quant à être pendu, je le mérite, et c'est juste, monsieur, » répondit-il. « Et je puis vous dire que, si vous m'aviez fait pendre le lendemain du crime, vous m'auriez fait une si belle grâce, que c'est à genoux, monsieur, que je vous aurais dit merci. La mort, oh mon Dieu, mais qu'est-ce donc en comparaison de la vie que je mène depuis 15 jours? Ce n'est jamais grand-chose que l'existence, mais celle que j'ai traînée depuis cette nuit. »
Il tressaillit, s'arrêta un instant.
« Voyez-vous, monsieur, j'ai été sur le point de me tuer bien des fois depuis lors, afin d'échapper à mes pensées. Je ne l'ai pas fait, et je vais vous dire pourquoi. J'avais peur de me souvenir encore et de me rappeler mon crime. Dieu seul peut savoir tout ce que j'en ai souffert. Puis, j'ai espéré que le Seigneur prendrait cette agonie pour une expiation, et que je devais supporter ce châtiment bien autrement terrible que d'être pendu, monsieur. Depuis ce jour-là, je me trompe peut-être, mais je me suis dit que, si j'étais dans le monde que Dieu habite, il m'enseignerait à distinguer le bien d'avec le mal. Ici-bas, je l'ai cherché, sans jamais le savoir au juste. Ça m'a bien tourmenté. Le mal est si affreux. Oh, j'irais en enfer avec joie si je pouvais m'y purifier de mon crime. Quant à être pendu, ce n'est rien du tout, monsieur. »
Il retomba épuisé sur sa chaise. Mary se précipita vers lui.
« Ah, c'est toi, ma fille. C'est toi. Où est Jem ?»
lui dit-il une voix faible.
Jem s'avança. « Mon garçon, » reprit Burton, « tu as beaucoup souffert à cause de moi. Toi qui étais innocent comme l'enfant qui va naître. Je ne te bénis pas. Ma bénédiction ne pourrait que te faire du mal. Mais tu aimeras Mary, quoi qu'elle soit mon enfant. »
Mr. Carlson se disposait à partir. Il s'arrêta au moment d'ouvrir la porte.
« Vous savez probablement où je vais, » dit-il. « Je me rends à la police pour qu'on s'empare de vous. Demain, vous répéterez au magistrat le récit que vous m'avez fait, et vous serez à même de juger avant peu jusqu'à quel point il est désirable d'être pendu. »«
Oh, monsieur, » dit Mary en prenant la main de Mr. Carlson, « mon père est mourant, regardez-le, vous verrez bien. S'il vous faut mort pour mort, vous l'aurez. Mais ne me l'arrachez pas. Laissez-moi ces derniers jours. Laissez-le mourir auprès de moi. »
Mary, je dois me soumettre, interrompit Burton en se levant. Je mourrai quand il voudra, et comme il le voudra. Tu as dit vrai, ma fille. La mort n'est pas loin de moi. Qu'importe où je passerai le peu de temps qui me reste encore à vivre, et que j'emploierai à souffrir pour me racheter dans l'autre monde. J'irai où bon vous semblera, monsieur. Quant à lui, ajouta-t-il en montrant Jem, il est innocent de tout.
Mr. Carlson demeurait inflexible, et de nouveau se dirigea vers la porte.
Un mot encore, monsieur, dit Burton, en s'appuyant sur Jem. Vos cheveux ont blanchi par l'effet des années. C'est la souffrance qui a blanchi les miens.
Hé, n'ai-je donc pas souffert? S'écria Mr. Carlson d'une voix brisée. N'ai-je pas travaillé, combattu dans la vie? J'étais heureux alors. Toutes mes espérances se concentraient sur mon fils. Je ne le disais pas. J'étais froid et dur pour les autres, mais pour lui. Qui peut s'imaginer jusqu'à quel point je l'aimais? Lui-même n'a jamais su comme mon cœur bondissait au seul bruit de ses pas, comme il était précieux à son pauvre vieux père. Et il est mort. On me l'a tué. Il n'entendra plus mes paroles, et je ne le verrai plus. Il était ma lumière, et maintenant c'est la nuit. Oh mon Dieu, console-moi, console-moi.
Les yeux de Burton s'emplirent de larmes. Riche et pauvre, patron et ouvrier, toute distinction avait disparu pour ne laisser que deux hommes, égaux devant la douleur, deux frères par la souffrance. N'était-ce pas là ce qu'il avait éprouvé lorsque Tom était mort? Le malheureux qui pleurait devant lui n'appartenait pas à cette race différente de la sienne qui traversait un monde à part, où tout brillait comme l'or et où chacun, sous des vêtements splendides, cachait un cœur de pierre. Ce n'était plus un maître, un ennemi, mais un pauvre vieillard qui pleurait son enfant. La sympathie pour la souffrance d'autrui, si puissante autrefois dans son âme, se réveillait chez Burton. Il se sentait entraîné vers ce malheureux père dont il partageait la douleur, et des paroles de pitié lui venaient aux lèvres. Mais qui était-il pour parler de consolation à cet homme, lui qui avait fait tout son malheur? Il restait foudroyé devant cette affliction qu'il n'avait pas prévue et qu'il avait causée. Jusqu'alors, la place vide que sa victime laissait au foyer domestique ne lui était pas apparue. Il n'avait pas plus songé à la douleur de cette famille en deuil que le soldat qui décharge son arme ne pense à la femme qu'il fait veuve et n'entend les cris des enfants qu'il vient de faire orphelins. À ses yeux, les patrons n'étaient que des adversaires sans pitié, n'ayant au monde d'autre mobile que d'obtenir la plus grande somme d'ouvrage au plus bas prix possible. Son but avait été de les intimider pour les forcer à plus de justice, et par la mort du plus violent d'entre eux, de renverser l'obstacle qui s'opposait à la victoire de ses frères, combattant pour défendre leurs droits. Il savait maintenant que c'était un de ses semblables qui l'avait frappé, et que de son crime ne pouvait sortir le bien des malheureux, dont il avait si aveuglément embrassé les intérêts. Brisé par la vue de Mr. Carlson, dont chaque sanglot l'atteignait au cœur comme un coup de poignard, il éprouvait l'impérieux besoin de s'excuser, mais ne trouvait pas ce qu'il pourrait dire pour faire comprendre par quel raisonnement il en était venu à regarder l'assassinat comme un devoir. Enfin, relevant la tête, « Je ne savais pas ce que je faisais, » dit-il à Job. Et se jetant aux pieds du gentleman, « Oh, monsieur, pardonnez-moi, » ajouta-t-il avec un entraînement passionné. « Pardonnez-moi toute la peine que je sais maintenant vous avoir faite. Je ne crains pas la souffrance ni la mort, je vous le répète, monsieur. Mais pardonnez-moi, je vous en conjure, car je ne savais pas ce que je faisais. » « Pardonnez-nous, Seigneur, comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés, » dit Job Lang. Mr. Carlson retira ses mains qui couvraient son visage. La vue d'un spectre eût été moins affreuse. « Que tous mes péchés me soient comptés, » répondit-il, « mais que je puisse venger mon fils assassiné. » Il y a des actes blasphématoires aussi bien que des paroles. Toute cruauté, tout endurcissement du cœur est un blasphème en action. Le gentleman sortit. Burton était tombé comme frappé de mort sur le carreau de la chambre. Ses amis le relevèrent, espérant que c'était la fin de ses tortures. Ils le portèrent sur son lit, et chaque pas qui retentissait au dehors les faisait tressaillir, car ils croyaient toujours entendre s'approcher des agents de la police. L'agitation de Mr. Carlson était si grande en sortant de chez Burton qu'il voyait à peine à se conduire. Son sang brûlait ses veines, et le battement de ses artères l'empêchait de voir et d'entendre. Il s'appuya contre un mur et leva les yeux vers le ciel pour tâcher de retrouver un peu de calme en contemplant ces mondes qui étincelaient dans l'espace. Il lui sembla peu à peu que le vent murmurait quelques mots à son oreille. L'écho grandit et lui renvoya ses propres paroles qui retombaient du ciel et retentissaient dans les profondeurs de la voûte infinie. « Que mes péchés me soient comptés, mais que je puisse venger mon fils assassiné. » Il essaya de secouer l'impression qu'il éprouvait de cette hallucination. Mais il avait la fièvre, il se sentait malade et reprit le chemin de sa demeure au lieu de se rendre à la police, comme il l'avait projeté. « Après tout, se dit-il, demain, il sera bien temps. Je n'ai pas à craindre qu'il m'échappe, à moins que la mort ne vienne me l'arracher. » C'était un beau soir de printemps, l'air était doux, et les promeneurs se pressaient dans la rue. Parmi eux, une enfant passait avec sa bonne. La jolie petite créature sortait probablement d'un bal. Sa toilette l'annonçait, et ses petits pieds en trottinant gardaient encore le rythme des pas qu'elle venait de faire. Un gamin accourait derrière elle, un géant comparé à la frêle et mignonne petite fille, et, la poussant rudement, comme elle dansait toujours, la fit tomber sur le trottoir. Elle se mit à crier, non sans raison, car la chute avait été si violente que le sang ruisselait de sa figure et tombait sur sa robe blanche, où il faisait de ces taches rouges dont les enfants ont si grand peur. La bonne avait saisi le gamin, et lui disait d'une voix rude, « Je vais appeler le policeman et te faire mettre en prison, mauvais garnement. Ça t'apprendra une autre fois à ne pas faire attention. Vois-tu, méchant drôle, comme tu lui as fait mal. » Le gamin la regardait d'un air de défi, et tremblait pourtant à l'idée du policeman. Irritée de l'insolence de ce regard, la bonne renouvela ses menaces et entraîna le petit polisson en le secouant violemment par le bras pour lui produire une salutaire impression. La terreur du gamin augmentait en même temps que sa colère. La petite fille eut pitié. Elle arrêta ses larmes. « Je n'ai pas beaucoup de mal, nourrice, » dit-elle, en attirant sa bonne pour la faire se baisser jusqu'à elle. « C'est parce que je suis petite que j'ai pleuré. Mais c'est bien bête, va, me crier pour ça. Et lui n'est pas méchant. Il ne savait pas, vois-tu. N'est-ce pas, petit garçon, que tu ne l'as pas fait exprès et que tu ne voulais pas me faire du mal ? N'aie pas peur, nourrice n'appellera pas le policeman. »
Et elle s'avança pour embrasser le gamin comme on lui avait appris chez elle, pour faire la paix avec celui qu'elle avait offensé.
Voilà un petit homme qui sera plus doux à l'avenir et qui deviendra meilleur grâce à la leçon qui lui vient de ce cher ange et qu'il n'oubliera pas, dit un passant à Mr. Carson, témoin de cette petite scène.
Mr. Carson ne sembla pas entendre ce que disait l'inconnu, mais les paroles de la petite fille lui rappelaient la prière qui venait de lui être faite.
Pardonnez-moi, car je ne savais pas ce que je faisais.
Cette phrase réveillait encore d'autres souvenirs. Où l'avait-il entendu? Peut-être l'avait-il lu jadis. Il le chercherait lorsqu'il serait rentré. Une fois chez lui, allant droit à sa bibliothèque, il prit une Bible magnifique, dont les feuillets dorés sur tranches étaient collés entre eux, comme il arrive aux livres qu'on n'a jamais feuilletés. Il l'ouvrit. Sur la première page où ses regards s'arrêtèrent, étaient inscrits les noms de ses enfants et la date de leur naissance. John Henry, fils de John, et d'Elizabeth Carson, né le 29 septembre 1815. Restait à écrire la date du jour où Henry était mort. Un nuage obscurcit les yeux du pauvre père, dont les larmes tombèrent sur la page blanche. Il se rappelait l'instant où, dans sa joie d'avoir un fils, il avait acheté ce précieux livre pour y marquer la naissance de son premier enfant. Il pensait, et ses pleurs coulaient toujours. Chose étrange, maintenant que le meurtrier d'Henry avait avoué son crime, il n'éprouvait plus pour l'assassin la haine ardente qu'il ressentait lorsqu'il le croyait jeune, plein de vie et défiant la loi humaine et divine par un injuste acquittement. Malgré son désir de vengeance, qu'il regardait toujours comme un devoir, il éprouvait quelque chose qui ressemblait à de la pitié pour ce vieillard épuisé, qui implorait son pardon en exprimant son repentir. Il avait remarqué l'horrible dénuement de Burton et restait frappé du contraste que présentait cette effroyable misère avec la pièce somptueuse où il était alors. Quelle différence entre les lots que la société distribue à ses enfants. Quel abîme entre des frères. L'évangile était là et, tandis qu'il rêvait, sa main tournait les pages. C'était dans le texte sacré que, tout enfant, sa mère le faisait lire. Il retrouvait dans sa mémoire les paroles oubliées du divin livre, et quand, tiré de son rêve par le sanglant récit qui passionnait son cœur, il arriva aux dernières lignes, ses yeux retrouvèrent ces mots qui vibraient dans son âme. « Pardonnez-leur, mon père, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il ferma le livre, et pendant toute la nuit, l'archange combattit pour terrasser le démon. Burton était resté longtemps sans donner signe de vie. On avait cru qu'il était mort. Vers le matin, il avait repris connaissance et retrouvé la parole. « J'ai tant souhaité de faire le bien, » disait-il à ses amis. « Je l'ai tant cherché. C'est une rude tâche pour un pauvre homme à qui l'on n'apprend rien, dont personne ne s'inquiète et qui n'a personne pour lui donner conseil. Quand j'étais petit, on m'apprit bien à lire. Pourquoi faire, puisque je n'avais pas de livre? Qui m'en aurait donné? On disait autour de moi que la Bible, c'était bon. Et quand plus tard j'ai voulu connaître la raison des choses, je me mis à chercher dans la Bible. Mais comment croire et comprendre quand tout le monde autour de vous dit qu'il fait jour et agit comme si c'était la nuit? Quand on dit blanc et qu'on pense noir, je dirais ça dans l'autre monde pour excuser ma faute. Et le bon Dieu me pardonnera. J'aurais suivi volontiers tout ce qui est dans l'Évangile, si j'avais vu les autres tâcher de s'y conformer. C'eût été dans mon cœur. Mais ceux qui en parlaient le plus faisaient juste le contraire. Alors j'ai pensé qu'on avait écrit ça pour tromper les ignorants et les femmes, tous ceux qui leur ressemblent, quoi. J'avais essayé de vivre, comme a dit Jésus-Christ. Ça me semblait comme au ciel. La bonne Alice m'encourageait, mais chacun me répétait. « John, pense à tes droits. Soutiens-les si tu ne veux qu'on te les ôte. » La femme, les enfants ne disaient rien, mais leur souffrance et leur faiblesse criaient assez pour eux. Tom mourut. Vous savez tous comment. Alors, je n'ai plus rien vu. Tout s'est troublé. J'ai été entraîné, l'air m'a manqué, et je suis devenu aveugle. » Il s'interrompit et continua quelques instants après. « Ça m'était naturel d'aimer les autres, quoique je sois devenu ce que je suis. J'ai même pensé, dans un temps, que j'aurais aimé les maîtres s'ils l'avaient voulu. C'était quand Tom vivait, avant que ce pauvre petit mourût de faim. Depuis lors, j'ai été partagé entre mon amour pour tous les malheureux comme moi et le désir de rester bon pour ceux qui, à mon sens, étaient cause de tout le mal. » Puis, le désespoir a pris le dessus. Quand j'ai vu que les actions des gens allaient au rebours de l'évangile qu'ils prêchaient, je me suis dit que je n'avais plus à m'occuper de la Bible. J'ai glissé, glissé. Je ne pensais pas que son père était vieux. Oh, s'il m'avait seulement pardonné, s'écria-t-il avec désespoir, et il murmura quelques ardentes prières dont on ne distinguait pas les mots. Job Legg était rentré chez lui, brisé par l'émotion qu'il éprouvait depuis la veille. Jem venait de sortir pour aller chez le pharmacien demander quelques médicaments qui pût calmer Burton et lui rendre la respiration plus facile. Pendant son absence, l'état du malheureux s'était encore aggravé. Il avait essayé de se lever, mais il était retombé, sans mouvement, en travers de son lit, et Mary, trop faible pour y parvenir, s'efforçait vainement de le recoucher. On ouvrit la porte. Elle crut que c'était Jem, et l'appela vite à son aide. Mais au lieu de celui qu'elle attendait, c'était Mr. Carlson. Il s'approcha du moribond, et le prenant dans ses bras, l'y soutint quelque temps. Burton joignit les mains, et son regard mourant exprima la reconnaissance. « Priez pour nous, » dit Mary, oubliant à cette heure solennelle tout ce qui divisait les deux vieillards. « Ayez pitié de nous, Seigneur, et pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Quand Mr. Carlson eut achevé cette prière, il ne tenait plus dans ses bras que le cadavre de Burton. Ainsi finit ce drame qui fut la vie d'un pauvre homme. Quand Mary eut repris ses sens, elle se trouva sur le banc de la salle basse. Jem la soutenait. Job et Mr. Carlson s'entretenaient d'une voix grave. Le gentleman dit adieu au fileur et sortit. Job dit alors, et comme se parlant à lui-même, « Dieu a entendu la prière de cet homme, et il l'a consolé. »